Boulevard. 102.1.
Gratis. Spotify, 10,99 par mois. Patreon, 5 $. Abonnement au câble, 55 $. Journal, 24 $. Boulevard 102.1.
Gratis.
La meilleure musique. Les podcasts, tout ce que tu dois savoir sur l'actualité. Puis des vidéos de Reg sur nos médias sociaux. Bye-bye, OnlyFans. Tout ça pour la grosse somme de 0 $.
Gratis.
Application gratuite, web radio gratis, FM gratis. Boulevard 102.1.
Gratis.
La vraie solution à l'inflation.
Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir.
Salut, bonsoir. Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102 Québec en espérant que vous ayez passé un bon début de semaine. C'est lundi soir, 18h. Maître Bellemare est avec nous comme à chaque lundi soir. Maître Bellemare, bonsoir.
Hey, je suis là, je suis arrivé. Comment ça va?
Ça va très bien, très content de vous jaser. Maître Bellemare, dans les dernières heures, on a vu des images absolument épouvantables d'une manifestation qui, au départ, était supposée d'être pacifique. Moi, vous comprendrez qu'étant pour la démocratie, je vis dans un pays qui s'appelle le Canada. Les manifestations sont légales tant et aussi longtemps qu'on ne brise rien et on s'attaque à personne. Dans les dernières heures, manifestations pro-Palestine, anti-Israël, des choses qui sont dites à l'égard d'Israël qui sont complètement inacceptables en sol québécois. Une dame qui se promène au travers de cette belle gang-là qui fait des saluts hitlériens en appelant au génocide. À l'extermination des Juifs, encore une fois. C'est épouvantable ce qu'on a vu. Et quand j'ai vu le bilan de la police de Montréal, Maître Bellemare, 3 arrestations, alors qu'il y a des policiers qui se sont fait attaquer, des journalistes qui se sont fait frapper, des propriétaires d'entreprises qui voulaient protéger leurs vitrines qui se sont fait frapper aussi. 3 arrestations seulement, Maître Bellemare. La police de Montréal est une honte et la mairesse qui ne dénonce pas justement l'inaction de sa police est une honte elle aussi.
C'est parce que Valérie Plante est pour ça. Elle, d'après moi, ces manifs-là, là, écoute, je n'ai pas d'autre explication. C'est sûr que c'est pas elle, la police. La police doit avoir une certaine distance par rapport au pouvoir politique. On n'est pas dans une police politique comme dans certains pays du monde. Mais il demeure qu'au niveau municipal, les services policiers, la sécurité publique, ça relève de la ville. Et la première magistrate, qui est la mairesse Plante, devrait non seulement condamner explicitement ces gestes-là, mais s'organiser pour que la police puisse faire son travail. Puis tu as raison, 3 arrestations, c'est complètement ridicule. Mais je vais te dire une chose, Yannick. Quand on a entendu M. Charkaoui, là, l'année passée, ou ce printemps, là, propager des menaces au peuple juif à peine voilé, là, tu sais, on lui disait que c'était une question religieuse, mais on a le film de ça. On le sait quand il dit qu'il en appelle à l'extermination des ennemis de la Palestine, puis tout le kit. Et il n'y a même pas eu d'accusation. Alors, ça a ouvert un petit peu le bal. Et à partir du moment où un des leaders de ce type de pensée-là n'est pas arrêté, n'est pas accusé, n'est pas molesté d'aucune manière, bien là, c'est le bord ouvert. Puis on laissait aller les campements pro-palestiniens à l'Université McGill, puis à l'Université du Québec à Montréal. Puis là, ben ils sont plus capables d'arrêter le cirque, mais ce cirque-là a été amorcé par les discours publics de M. Charkaoui, qu'on a vidéo et tout. Et ça a été accepté parce qu'il n'y a jamais eu de poursuite d'accusation ni du DPCP du Québec, ni de la police fédérale, parce que le fédéral a été saisi du dossier à un moment donné.
Maître Bellemare, c'est parce qu'à un moment donné, c'est l'exemple qu'on donne à d'autres qui vont dire « ben on peut faire n'importe quoi, la police ne nous arrêtera pas, la mairie de Montréal semble être de notre côté ». Puis il y a un parti politique, en fait le seul parti politique qui n'a pas dénoncé cette manifestation violente-là, c'est Québec solidaire. C'est un peu gênant. C'est à se demander si les terroristes qui étaient dans les rues de Montréal dans les dernières heures, qui agressaient des gens, ça se demander si c'est pas des fans un numéro 1 de Québec solidaire. C'est peut-être ça qui a poussé Québec solidaire à ne pas dénoncer cette manifestation-là. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'exemple qu'on donne à ces gens-là. C'est-à-dire que vous pouvez vous promener à Montréal lors d'une manifestation et tout casser, voler dans des commerces, tirer de la peinture sur des policiers et vous n'aurez pas de problème. T'sais, à mes yeux, à moi, les législateurs au Canada devraient se pencher sur ce type de choses-là qui arrivent de plus en plus parce qu'on fait rentrer des gens qui ont beaucoup de choses à revendiquer, mais bien souvent de la mauvaise manière. Puis quand ils le font, ben on les réprimande pas, puis surtout, on les renvoie pas d'où ils viennent. Parce qu'ils partent d'un pays où c'est le bordel un peu, ils arrivent ici parce qu'ils veulent avoir la paix et recommencent à créer le bordel. Moi, blanc comme foncé, là, si vous commettez un crime en sol canadien, ben vous devez être puni. Puis là, ben dans les dernières heures, visiblement, on ne punit pas ces gens-là.
Oui, puis c'était tout le rapport au discours haineux. Parce que quelqu'un qui contrevient à un règlement municipal qui consiste à garder la paix ou à briser une pancarte, par exemple, ça, c'est du méfait public. Tu sais, il y a des règlements municipaux qui sont propres à chaque ville. À Montréal, il y en a aussi, à Québec. Et il y a des règlements aussi qui touchent Québec, bien sûr, les lois pénales, mais il y a aussi le code criminel. Et tout ce qui touche le discours haineux. Le discours haineux, c'est de s'attaquer à quelqu'un ou d'inciter à la violence ou à des gestes répréhensibles, violents, verbaux comme physiques, à l'encontre d'une personne compte tenu d'une religion ou de la race ou quoi que ce soit. Alors, on peut débattre, on peut être contre le port de tel signe religieux, on peut être contre telle croyance religieuse, on peut être contre les religions en général, mais tu peux pas inciter à la violence, tu peux pas encourager des gens à haïr un groupe ethnique ou un groupe religieux. Et ce qui se produit dans le cas d'Israël, c'est exactement ça. C'est une incitation à la haine. T'sais. C'est rendu, là, c'est pas juste un débat. On dit, moi, je suis pro-Palestine, donc voici pourquoi Israël a tort, etc. Il n'y a pas de débat, là. C'est des discours haineux et qui encouragent la population à poser des gestes violents ou à avoir des propos violents à l'encontre d'un groupe ethnique qui s'appelle les Juifs au Québec. Et bien sûr, c'est un débat, c'est un problème qui est au Moyen-Orient actuellement depuis le 7 octobre 2023. On sait ce que ça a donné. On sait qu'il y a eu des attaques du Hamas qui ont mené à la mort à peu près 1200 personnes en Israël. Mais là, c'est devenu... Là, ils importent ce problème-là chez nous. Et au Québec, comme un peu partout en Amérique du Nord, il y a des manifestations, il y a des agressions, il y a des bris, il y a de la violence, il y a des centres religieux qui ont été attaqués, il y a des Juifs qui sont molestés, il y a des menaces de mort, mais on laisse tout faire, alors qu'ici, on a un code criminel, normalement, on devrait agir, mais sous prétexte que c'est un débat de type religieux, on a l'impression que tout est permis. Puis ça, c'est le DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales, qui devrait porter des accusations sans aucune hésitation. S'il l'avait fait dès le début, je suis convaincu qu'on ne serait pas dans le chaos comme on est actuellement.
Parce qu'on avait appliqué des mesures spéciales dans le cadre de la guerre des motards, Maître Bellemare. On avait dit aux Hells Angels, si vous vous faites prendre avec votre creste, que vous montrez à tout le monde, ben on va vous arrêter sur le champ parce que vous avez un creste des Hells Angels. Et à ça, ben ça va s'ajouter des années de prison. Et les Hells Angels ne montraient plus leur creste, ne montraient plus leur couleur lorsqu'ils étaient en public. Puis ceux qui l'ont fait, ben ils se sont ramassés avec ces dites années de prison-là. Je ne me trompe pas, Maître Bellemare, c'est autour de 10 ans qu'on avait parlé. Là. Je ne sais pas si ça a été réellement appliqué, mais ça avait eu un effet dissuasif sur les Hells, c'est que ils se montraient plus en public avec leur couleur. Moi, à mes yeux, à moi, tout le monde peut participer à une manifestation tant que c'est pacifique, parce que la loi le permet de le faire. Mais on devrait ajouter quelque chose, c'est-à-dire si vous êtes dans une manifestation pacifique et que vous êtes violent, ben savez-vous quoi? On a une nouvelle loi qui vient d'être mise en place pour contrecarrer vos plans et on va vous rentrer en tôle pour un minimum de 2 ans parce que vous avez été violent envers la population en général, envers les journalistes, envers les policiers. Il devrait y avoir ça d'inclus pour juste calmer ces gens-là qui veulent un monde meilleur, mais ils veulent leur monde meilleur à eux, alors qu'ici, ben on est libre de vivre comme on veut, tant aussi longtemps que ça fait pas mal à personne.
Oui, mais tu sais, on est dans le Québec mou sur la loi, mou sur la sévérité. On ouvre le journal le matin, on écoute l'actualité, puis on se rend compte qu'il y a tellement de mollesse dans notre justice criminelle. Pas la justice civile, la justice criminelle. Tout ce qui touche les infractions criminelles, je l'ai dit, je le redis, on est mou comme les guenilles, on n'accuse pas. Quand on accuse, on demande pas des peines assez sévères. Quand on a des peines qui ne sont pas satisfaisantes, on ne les pousse pas en appel. Et des exemples de ça, il y en a des centaines. Et je pense que quand c'est une question qui touche les religions, de peur peut-être que l'État québécois, à travers son bras judiciaire, à travers le directeur des poursuites criminelles et pénales, passe pour un bras raciste qui serait contre les Palestiniens parce que il porterait des accusations contre quelqu'un qui a fait une manifestation pro-Palestine, qui est l'équivalent d'une manifestation anti-juif la plupart du temps. Alors, tu sais, c'est ça le problème. Et tant qu'on n'aura pas un DPCP qui va avoir des épaules et qui va dire « ça va faire, on va porter des accusations, ça va continuer, Yannick ». Parce que c'est trop facile pour eux. Ils savent qu'ils sont au Québec. Et moi, je pense que ce type de manifestation-là aurait moins de chances de se produire en Ontario ou en Alberta, parce que dans ces provinces-là, ils sont plus durs sur la loi, ils sont plus à cheval sur le code criminel. Puis je pense que Doug Ford en Ontario, là, je suis pas sûr moi, qu'on ferait des manifs comme ça à Toronto bien souvent. Je pense qu'il prendrait mesure pour que ça arrête, parce que lui porterait des accusations, ou en tout cas, il s'organiserait pour que la justice, le code criminel soit davantage respecté. Mais au Québec, on laisse tout faire. On est bonasse. Et moi, je suis convaincu que les groupes qui manifestent comme ça, qui répandent des propos haineux contre les Juifs, sont des groupes qui savent qu'au Québec, on est mollassons, puis ils se payent la traite.
Ah ben,
c'est la seule explication que j'ai.
Eux, ouais. Ils voient des opportunités, là, bien entendu, mais ce qui est dommage, c'est de voir que Valérie Plante ne fait absolument rien, ne se fâche pas, elle ne reproche absolument rien à son chef de police, alors que ça aurait été le temps de donner une petite tape sur les doigts, c'est-à-dire, on vous a mis en place pour avoir une ville sécuritaire, puis depuis que vous êtes en place, c'est la continuité des autres chefs de police qui étaient là, c'est que ça continue, il y a de plus en plus de criminalité, puis quand il y a des manifestations qui dégénèrent, bien visiblement, vos policiers font pas l'affaire parce que vous leur demandez d'agir de telle ou de telle façon. Donc, est-ce que Fadi Daguerre est encore l'homme de la situation au service de police de la ville de Montréal? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Mais visiblement, c'est pas la mairesse qui va le condamner puisque c'est elle qui l'a mis en place, lui.
Mais penses-tu que si c'était à Québec, ce serait différent? Moi, je pense que non. Je pense pas que Marchand prendrait des moyens très, très énergiques pour condamner ce type de manif. Je pense qu'ils sont tous à gauche pareil. Que ce soit Marchand, que ce soit Plante, que ce soit Mme Fournier à Longueuil, on a une génération, une nouvelle génération, aux dernières élections, on l'a vu, beaucoup de jeunes qui ont été élus dans les municipalités du Québec, puis de ce que je comprends, ils sont pas mal tous à gauche. Alors, ça veut dire ça, bien, il ne faut pas trop être sévère, il faut faire attention, il faut permettre aux idées de circuler, puis quand les idées consistent à manifester de façon en faveur de la Palestine, ben en tout cas, on ne sait pas trop pour qui ils manifestent, parce que quand des manifestations pro-Palestine, c'est quoi? Des manifestations pour les Palestiniens qui sont victimes? C'est des manifestations pour les Palestiniens qui en veulent à Israël? C'est des manifestations pour les Palestiniens qui veulent exterminer Israël? C'est des manifestations pour les groupes terroristes qui se cachent un peu partout en Palestine? C'est des manifestations pour quoi exactement? On ne sait pas trop. C'est sûr que quand on écoute les nouvelles, c'est qu'on voit les massacres. Les enfants, les femmes qui sont massacrées sous les bombes israéliennes en Palestine, c'est pas drôle, j'aime pas ça, mais le conflit est tellement complexe, puis tellement difficile à décortiquer qu'on en appelle à la non-violence, qu'on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de personne qui ait des propos haineux d'un côté comme de l'autre. Mais t'as raison, ce type de manifestation-là n'a pas sa place, mais il faut commencer en quelque part. Puis quand il y a des bris, puis il y a des gens qui sont agressés, puis il y a des propos haineux, on est carrément dans le code criminel. C'est le code criminel du Canada qui interdit ce type de comportement-là et ça passe par des accusations et éventuellement des condamnations. Mais si demain matin, il y avait des accusations sérieuses qui étaient portées en quantité suffisante, là, ça pourrait avoir un effet dissuasif sur ceux qui mènent le chaos. Là.
Mais de là à changer la législation, comme on l'a fait avec la guerre des motards, c'est-à-dire qu'on leur interdisait de mettre les crestes en public, sinon c'était des années de prison, bon, on pourrait faire la même affaire. Vous avez le droit de manifester, mais à partir du moment où vous vous faites prendre à frapper sur un policier lors d'une manifestation, ben, c'est un minimum de 2 ou 3 ans de prison, tout simplement. Vous êtes vu en train de faire des saluts hitlériens et diffuser votre haine dans une manifestation qui était supposée d'être pacifique. Ben, c'est un 2-3 ans de prison. Vous cassez des vitrines, vous volez dans des commerces, vous frappez sur les propriétaires d'entreprises qui vous empêchent de briser leur devanture. Ben, c'est un 2-3 ans de prison. C'est un minimum. Ouais, mais là, vous n'êtes pas gentil, là. Ben, c'est pas grave. C'est comme ça. Ici, on manifeste pacifiquement ou sinon, ben, tu fais de la prison, puis après ça, ben, t'es pas un bon citoyen. Donc, toi, tu voulais t'en venir ici au Canada pour une vie meilleure, mais t'es pas un plus pour notre communauté. Fait que tu reprends tes clics, tes claques et tu t'en vas chez toi. Mais continue de manifester chez toi à ce moment-là, tu sais.
Tu viendras pas importer dans un pays pacifique les problèmes de l'autre pays. On peut avoir des idées, mais on n'est pas au Moyen-Orient ici, puis Dieu m'en protège. On est dans un pays pacifique. C'est une des qualités qu'on a ici, dans notre coin de planète. Mais on ne veut pas importer ici les conflits d'ailleurs. En tout cas, on peut avoir une sensibilité, on peut discuter. Mais ici, les conflits se règlent par la parole. Ils se règlent pas par des coups de poing, par des bombes. Et là, ce qu'on a, c'est les manifestations, c'est explicite. Il y en a qu'on les voit à la télévision, on les voit partout. Donc, ce sont des conflits qui sont faciles, tu sais, des gestes qui sont faciles à comprendre. On les voit on voit même des infractions dans les reportages télévisés. Mais il y a beaucoup, beaucoup de haine qui propagée verbalement. Des menaces, des synagogues qui sont attaquées, des signes haineux un peu partout dans la rue. Alors, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas réprimées, de comportements qui ne sont pas réprimés parce que c'est difficile de prouver. Souvent, on n'a pas l'auteur. C'est difficile, c'est du verbal. Mais écoute, les étudiants juifs sont molestés dans toutes les écoles, surtout à Montréal. Ils sont victimes de propos haineux, ils sont victimes de réprimandes, ils sont victimes de regards insistants, de commentaires déplacés. Et ça, on ne peut pas bouger. La plupart du temps, à défaut de preuves, mais quand c'est des manifs, là, on n'a aucune raison de ne pas bouger.
Maître Bellemare, est-ce que François Legault aurait eu tout avantage à donner des solutions plutôt que de dénoncer? Bon, je vois qu'on a donné, on a tenté de dire à la police de Montréal, si vous avez besoin d'aide, la Sûreté du Québec est là. Mais est-ce que François Legault peut, lui, en étant premier ministre du Québec, peut apporter des solutions, peut apporter son aide dans ce type de manifestation-là?
Bien, ça passe par la justice. Mais c'est sûr que la police peut être là pour assurer la paix sociale, puis arrêter des gens, puis surveiller, puis bon, être présente. Mais tout ce qui touche les gestes illégaux, tout ce qui touche, comme je le disais tantôt, le discours haineux, c'est criminel. Les méfaits publics, quand tu brises une pancarte ou une clôture, c'est criminel. Les voies de fait, c'est criminel. Les voies de fait graves, c'est criminel avec des conséquences physiques ou psychologiques. Molester, nuire au travail d'un policier, c'est criminel. Ça passe par le directeur des poursuites criminelles et pénales, qui est communément appelé la couronne. Et ça relève du ministre de la Justice, qui est Simon Jolin Barrette, qui est bien sûr le bras droit de M. Legault. Alors, comment ça se fait que le DPCP, la couronne, ne bouge pas dans ce type de cas-là? Comment ça se fait qu'il n'y a pas eu d'accusation contre Charkaoui? Comment ça se fait que ceux qui propagent des discours haineux ne sont pas arrêtés? C'est là qu'il faudrait agir. Et même la loi sur le DPCP permet au ministre de la Justice de prendre sur lui d'initier des accusations. Il peut prendre sur lui de déposséder le DPCP d'un dossier comme celui-là, puis de dire « Moi, Simon Jolin Barrette, je suis ministre de la Justice, procureur général du Québec, je vais m'en occuper de ces dossiers-là, puis moi, je vais déporter des accusations. » C'est ça qu'il faudrait faire, parce que le reste, c'est de la politique, c'est des mots, c'est des discours. On voit bien que le gouvernement, tu sais, au-delà du discours politique qui consiste à prendre la parole à l'Assemblée nationale, dans l'espace public, « Je suis premier ministre du Québec, j'en appelle au calme », ça vaut rien, ça. On n'est pas là. Puis on fait affaire à des gens qui sont radicaux, et qui ont des idées bien ancrées, puis qui n'ont pas l'intention d'arrêter, c'est pas fini, là, ça va continuer. Fait que tant qu'il n'y aura pas un mur qui va être à la hauteur de l'audace et de l'ambition et de la détermination de ces groupes-là, ça va continuer. Puis tant que le conflit va subsister au Moyen-Orient, ça va continuer aussi. Puis là, avec l'élection de M. Trump aux États-Unis, ben là, ça risque peut-être encore d'exacerber encore plus les tensions, parce que lui, il est franchement Israël. Alors là, il y a comme une espèce de panique qui s'installe. Et c'est là qu'on voit toutes ces scènes et toutes ces manifestations disgracieuses.
Maître Bellemare, nouvelle qui est tombée jeudi. Nous, on se parle juste le lundi, donc je veux vous parler de cette nouvelle-là. C'est une histoire qui s'est passée en 2021. Ça touche la Sûreté du Québec, une patrouilleuse que je connais bien, qui était ma collaboratrice pendant des années, qui était policière et qui s'est fait tirer par cet individu-là. Son nom, c'est Marco Rodrigue. Et là, il a été déclaré coupable d'avoir déchargé une arme à feu sur la policière et de tentative de meurtre. On parle d'un homme de 57 ans de Saint-Zacharie et il a été trouvé coupable de tentative de meurtre par un jury. Il a obtenu sa sentence. C'est 15 ans de prison. Est-ce que le message est clair? Si on s'attaque à des gens, ben vous allez le payer très cher, le prix de s'attaquer à des gens. Là. 15 ans quand même, je trouve ça le fun. La couronne qui réclamait entre 15 et 18 ans de prison. Puis pour ce qui est de la défense, on demandait 9 ans environ, mais le juge qui a décidé de laisser ça à 15 ans, je trouve ça parfait, moi.
Oui, bien moi, on avait parlé, puis je t'avais dit au moins 10 ans, compte tenu de la tradition, puis de ce qu'on appelle, en termes savants, la jurisprudence en cette matière. Mais écoute, moi, une tentative de meurtre sur une personne, 15 ans, mais sur une policière, qui représente l'intérêt public, qui représente, si tu veux, c'est l'institution la plus importante pour la protection de nos vies et de nos familles. La police, on n'avait pas, là. Je me demande bien dans quelle tradition western on se retrouverait. Alors, 15 ans, ouais. Il va-tu faire 15 ans? Ça, c'est une autre affaire, parce que moi, j'ai souvent reproché aux journalistes, je leur ai dit souvent, ceux qui couvrent l'actualité judiciaire, vous faites des gros titres avec ça, mais vous ne suivez plus le dossier après. Moi, ce qui m'intéresse, là, c'est pas de savoir s'il y a eu 15 ans, de le juge qui a dit 15 ans, 15 ans, 15 ans. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quand est-ce qu'il va sortir. Parce que il y a ce qu'on appelle au Canada la libération d'office. Les libérations en criminelles, conditionnelles. La commission des libérations conditionnelles doit permettre à un individu de quitter le pénitencier après 2/3 de sa peine. C'est presque automatique, à moins que les commissaires aient la certitude que le bonhomme en question va causer la mort, va s'attaquer à un enfant ou va faire un trafic de drogue, essentiellement. Alors, quand vous voyez une peine fédérale, c'est-à-dire 2 ans et plus, dites-vous que ce gars-là ou cette fille-là va à peu près à 95 % des chances sortir après 2/3. Et dans certains cas, 1/3. Alors, on se souvient de Guy Cloutier qui avait été condamné à 42 mois de prison pour avoir agressé Nathalie Simard pendant 10 ans. Bien, il a fait 19 mois. Juste pour te donner un exemple. Alors, ça passe devant les commissaires. Puis là, si notre ami Rodrigue Marco, là, qui a tiré sur Mme Giroux, la policière, si lui, il dit « Moi, j'ai été fin en prison », j'ai suivi une petite thérapie, je me suis pas battu, j'ai pas sauté sur personne avec un couteau dans la cafétéria. Alors, il y a des chances de sortir bien avant son terme, bien avant les 15 ans. Alors, c'est ça que j'avais dit aux journalistes en question. Pourquoi vous nous dites pas quand le coco sort, comme Luke Wiseman qui a abusé d'une petite fille de 12 ans, là, le producteur d'Avanti à Montréal, là, ouais, qui a ouais. produit « Tout le monde en parle », qui a produit « Un gars, une fille », qui a produit « La petite vie », condamné à 2 ans moins un jour de prison, il a fait 6 mois. Moi, c'est ça qui m'écœure. Alors, si tu me dis « Marco Rodrigue va rester en dedans tous les jours que le bon Dieu amène pendant 15 ans », oui, je suis content. Je trouve ça correct. Si tu me dis qu'il va sortir au bout de 6-7 ans, là, c'est plus correct. Parce que si on doit respecter l'opinion du tribunal, puis si le juge a assez de jugement pour être assis là pour prononcer une peine, normalement, on devrait respecter cette peine-là intégralement, donc pas le libérer avant le tiers ou les 2/3 de sa peine. Parce que là, c'est une tentative de meurtre. C'est un des crimes les plus graves dans le code criminel. On est rendu dans la ligue majeure, là. C'est pas une tape en arrière de la tête ou un vol à l'étalage. On parle d'une tentative de meurtre sur une policière, là. Aucune provocation, rien à reprocher à la policière. Il est complètement en infraction. Puis elle a passé à un cheveu de la mort. Moi, je me suis jamais fait tirer, là. Mais j'imagine ce que ça doit être quand tu es dans ton char, qu'à un moment donné, tu vois le coco avec son fusil qui t'enligne puis qui tire deux coups de feu. Elle ne retournera jamais travailler comme police, même si ça y tentait. Moi, d'après moi, c'est terminé.
Ben, elle fait de l'administration un peu, mais en raison de sa blessure, parce que quand elle a vu Marco Rodrigue tirer, elle s'est couchée vers sa gauche. Donc, elle a évité la balle parce que la balle est rentrée directement dans le coussin qui était derrière sa tête, mais elle est passée entre son index et son majeur, ce qui fait en sorte qu'elle a créé du dégât dans ses doigts-là puis elle n'est plus capable d'avoir son arme à feu. Donc, elle est plus opérationnelle sur un terrain comme patrouilleuse. Donc, elle ne pourra jamais plus être patrouilleuse, à savoir si elle va continuer à la Sûreté du Québec dans d'autres fonctions, dans un autre groupe. Ça, j'ai pas la réponse. Mais même si j'ai écouté son témoignage qui était rempli d'émotions, moi, ça m'a vraiment touché de voir tous les impacts que ça a eu sur sa vie, sur la vie de sa famille, sa petite fille qui a cru au départ que sa mère était décédée. T'sais. Puis d'entendre les motivations de Marco Rodrigue, la raison pour laquelle il a tiré, c'est que lui, ça aurait pu être n'importe qui. C'est juste qu'il était tanné de se faire voler par le gouvernement. Et c'est ce qu'il a dit d'ailleurs à l'enquêteur qui était au dossier. Là. Il a tiré parce qu'il était tanné de se faire voler par le gouvernement. Puis Catherine l'a intercepté sur la 73 parce qu'il faisait un excès de vitesse. Donc le billet de contravention lui aurait coûté 100$, 150$. Au lieu de ça, parce qu'il était fâché, il va faire un 15 ans de prison.
Oui, c'est ça. Puis les blessures psychologiques, moi, je représente au bureau depuis 45 ans maintenant. Je finis en 79, c'est pas d'hier. Des victimes d'actes criminels de toutes sortes, là, Yannick. Puis je les ai pas mal toutes vues dans mon bureau, là. Tu sais, les cas, les victimes de la mosquée de Québec qui ont été tirées le 29 janvier 2017. La petite Daphné Boudreau qu'on voit actuellement, là, qui a été assassinée à Saint-Hilaire, j'ai représenté son père, puis sa mère, puis la blonde de son père devant le tribunal administratif pour les faire reconnaître comme victimes. J'ai fait pas mal le tour dans ma vie de tous les cas connus de victimes d'actes criminels. Je peux te dire que ces gens-là sont porteurs de séquelles à vie. Hein. On appelle ça un stress post-traumatique. Le stress post-traumatique, ça a été documenté dans les années 70 au retour des GI du Vietnam. Parce qu'avant ça, on parlait simplement d'une névrose. On disait que c'est dans la grosse catégorie des névroses, donc une personne anxieuse, une personne qui a des problèmes de sommeil. Mais quand les GI sont venus du Vietnam, les Américains ont décidé de documenter cet aspect-là parce que les gens avaient des flashbacks, il y avait des troubles de sommeil importants, il y avait des cauchemars persistants, hypervigilance, qui sont les trois critères du stress post-traumatique. Et là, ça a été documenté, il y a eu des recherches qui ont été faites, des études qui ont été faites, et c'est là qu'on a vu apparaître le syndrome du stress post-traumatique. Alors, quelqu'un qui est victime d'un acte criminel, moi, je te dirais que la plupart, surtout quand ça survient de façon soudaine et imprévue, là, une agression sexuelle, une invasion, un viol, une invasion à domicile, une attaque à la hache ou au couteau, ça cause presque invariablement des stress post-traumatiques. Et ben, écoute, une policière qui se fait tirer, je peux pas croire qu'elle a pas... Et à chaque fois que tu es confronté à une image, des fois, ça peut être juste une odeur. Hein? Moi, j'ai vu des victimes d'actes criminels, des femmes qui ont été agressées, et le gars avait une odeur de sueur, de parfum, de lotion de rasage, bon, ou en tout cas, l'endroit où la personne était, il y avait une certaine odeur. À chaque fois que l'odeur revient, la personne revit le même stress. C'est comme si c'était arrivé à 5 minutes. Des fois, c'est une couleur, un mur, un vêtement. Les gens qui sont victimes de stress post-traumatique sur la route, souvent, c'est le bruit de moteur, la moto, les changements de vitesse. Les gens entendent ça l'été, les fenêtres ouvertes, ils entendent des véhicules automobiles. Automatiquement, le stress post-traumatique va déclencher. Puis c'est comme une plaie, c'est comme une verrue qui revient tout le temps puis que t'es pas capable dont t'es pas capable de t'affranchir. Alors, se faire tirer comme madame la police, là, à Sainte-Marie, Mme Giroux, je crois, écoute, ça se peut pas qu'il n'y ait pas de séquelles aussi du côté psy. Puis moi, j'ai l'impression qu'il y a certainement des séquelles physiques, du fait de la main qui a été blessée, mais il ne faut jamais oublier tous les aspects qui ne paraissent pas, qui ne sont pas concrets, qui sont tous les aspects psychologiques.
Est-ce que l'IVAC, bon, dans son cas, elle a été blessée dans l'exercice de ses fonctions, mais est-ce que l'IVAC s'applique quand même?
Non. Quand c'est un accident de la route criminel, c'est la SAC qui paye. Quand c'est un accident de travail criminel, c'est la CNESST qui paye. Quand c'est un accident de travail sur la route criminelle, c'est la CNESST qui paye. La CNESST est toujours premier payeur, toujours en haut de la pile. Après ça, si la CNESST ne paye pas, c'est la SAC, puis en dernier, c'est l'IVAC. Alors, les gens qui sont victimes, qui sont sous l'IVAC, là, qui sont indemnisés par le service d'indemnisation des victimes d'actes criminels, c'est nécessairement des gens qui ont été blessés en dehors du travail puis en dehors du réseau routier. Parce que si c'est au travail, c'est la CNESST qui l'emporte. Et si c'est sur la route, alors, c'est pour ça que, tu vois, dans nos systèmes d'indemnisation, on dit souvent que les chauffeurs, les gens qui commettent des actes criminels au volant sont les mieux traités parce qu'eux autres, ils sont considérés comme des victimes. C'est assez aberrant, mais c'est la loi les considère comme des victimes de la même manière que leurs propres victimes. Alors que si tu es blessé par arme à feu, à ce moment-là, le tireur n'est pas victime. Il ne peut pas être victime, même s'il se blesse en tirant. Parce que la loi de l'IVAC exclut spécifiquement les auteurs d'actes criminels, alors que la SAC, elle, les considère comme victimes. Alors, c'est un des... Il y a un criminaliste qui m'a dit il y a une vingtaine d'années, « Marc, les chauffeurs, c'est nos meilleurs clients parce qu'eux autres, ils ont de l'argent. » Ils ont de l'argent pour payer leurs avocats parce que la SAC les indemnise. On rit, puis c'est tellement triste. C'est pas drôle, mais on est encore aussi toto. Depuis 1978, Yannick, qu'on paye les cacas qui se promènent sur le chemin complètement sous puis qui tuent le monde. On n'a pas encore compris, ça fait 46 ans que ça existe.
On doit encore ça à Mme Lise Payette.
On doit ça à Lise Payette, oui, c'est vrai, mais il faut comprendre qu'en 1978, quand Lise Payette a fait passer cette loi-là, la loi sur la régie de l'assurance automobile, à l'époque, on appelait ça la RAAC, c'est devenu la SAAC en 1990, Mme Payette disait à l'époque, si vous êtes victime d'un criminel sur la route, vous allez avoir les deux. Vous allez avoir la loi de l'indemnité de la RAAC, l'indemnité de l'IVAC en plus. Ça a duré quelques années, puis à un moment les tribunaux ont commencé à jouer là-dedans, puis ils ont dit non, c'est un ou l'autre. Alors, c'est la RAAC simplement, c'est pas l'IVAC. Mais les responsables de tout ça, Yannick, c'est pas nécessairement Mme Payette, c'est tous les gouvernements qui auraient dû changer la loi depuis 1978 et qui ne l'ont jamais fait. En commençant par Robert Bourassa à l'époque, en 85, quand il a été élu. Après ça, ça a été Parizeau qui a été élu en 94, qui n'a pas changé la loi. Après ça, ça a été Lucien Bouchard qui l'a remplacé en 96. Après ça, ça a été Charest en 2003 qui a promis spécifiquement de modifier la loi sur l'assurance automobile pour arrêter de payer les chauffeurs incarcérés parce qu'on les paye même en prison, qui n'a pas respecté sa promesse. Alors, c'est tous ces gouvernements-là qui se sont succédés depuis 46 ans et qui ont toujours laissé passer cette affaire-là et qui n'ont jamais changé. Parce que quand tu es élu, tu as le droit de la changer à la loi. Tu es là pour ça. Alors, comment se fait-il que tous ces partis-là, le PQ, les libéraux, la CAQ, comment ça fait qu'ils tolèrent que des criminels de la route, des chauffeurs, des bandits sur la route soient indemnisés parce qu'ils sont malheureusement blessés en commettant leurs propres crimes sur la route?
Mais qu'est-ce
pas juste Mme Payette, là.
Oui, je comprends, mais qu'est-ce qui les empêche de faire ça? Est-ce qu'ils ont l'impression que la population ne sera pas derrière eux? En même temps, c'est pas ça qui retient certains gouvernements de mettre en place des trucs qui n'intéressent pas la population, pas en tout. Là. C'est un autre dossier, mais le tramway, je veux dire, l'acceptabilité sociale du tramway n'est pas là, puis on veut le mettre quand même en place. On se pose pas de questions pour ce qui est de l'acceptabilité sociale, parce que quand on regarde les sondages, on se dit, ah, le troisième lien, la majorité des gens, ils veulent faire ça. Mais pour ce qui est d'enlever le no-fault, là, qui pourrait se liguer contre ça? Que risque le gouvernement à essayer de revoir un peu justement ce no-fault-là?
Oui, il devrait le faire, hein, parce que depuis la commission parlementaire qui avait permis à Lise Payette, dans le premier gouvernement péquiste, de voter la loi sur l'assurance automobile, elle a eu lieu en 1977. Alors, ça fait 47 ans. Ça va faire 48 ans le 1er mars prochain. que la loi est adoptée. Alors, on n'a pas eu de consultation générale sur l'assurance automobile au Québec depuis ce temps-là. Ça fait quand même des années, là.
Ouais.
Alors, qu'est-ce qui empêcherait Mme Guilbeault, qui est la ministre des Transports, demain matin, de dire « OK, on va faire une consultation publique. » Ils en font pour ça de niaiseries, probablement faire une pour ça. Puis dire « On va regarder la protection de l'assurance automobile au Québec. On va regarder si on devrait la maintenir telle quelle ou la changer. » Question. Est-ce qu'on devrait indemniser les quatre roues? Parce qu'ils payent des plaques, les quatre roues, là. Est-ce qu'on devrait indemniser les gens qui se blessent en motocross? Est-ce qu'on devrait indemniser les gens qui se blessent en motoneige parce qu'ils sont plaqués aussi, qui ont des plaques sur leur motoneige, ils payent des frais d'immatriculation? Est-ce qu'on devrait indemniser les chauffeurs en prison? Tu sais, il y a quantité de questions qu'on pourrait se poser. Est-ce que les primes sont assez chères? Est-ce qu'on ne devrait pas augmenter les primes pour permettre d'avoir une meilleure protection pour les victimes d'accidents de la route? Est-ce qu'on devrait indemniser les parents des enfants qui sont tués sur la route alors que les parents ne sont pas présents au moment du crime, comme on le fait avec l'IVAC actuellement? Il y a plein de questions. Mais le gouvernement ne s'intéresse pas à ça, puis il laisse aller. Alors, il est mieux pas bouger le problème, pas ouvrir la boîte de Pandore de peur qu'il y ait des contestations, qu'on critique le régime, parce qu'il est mieux pas bouger. Puis nous, on le critique, là, mais le gouvernement peut se permettre de ne pas bouger. Puis de temps en temps, dans l'actualité, ben tu vois des aberrations, puis là, le feu pogne, puis là, on en parle pendant 2-3 jours, ben, à un moment donné, ça arrête, on n'en parle plus. Puis c'est ce qui fait que le gouvernement peut s'en sortir sans trop se questionner sur ces millions-là qu'on donne à des criminels de la route à chaque année au Québec.
Comme à chaque lundi, on a le plaisir d'être avec Maître Marc Bellemare. On va faire une courte pause pour rejoindre Maître Bellemare des dossiers de SAAC, d'IVAC, de CNSST. C'est bellemareavocat.ca. On vient.
Marceau, le soir.
Boulevard 102.1.
Sa passion, sa verve, son humeur et sa sagesse transcendent les ondes chaque vendredi. En d'autres mots, le rendez-vous de Pierre Houd avec Gravel dans le retour, c'est un must.
Mais j'haïrais pas ça que t'essayes ça, le mélange des genres, à un moment donné. Mm-hmm. Oh, un choix audacieux de Suzuki qui patine sur les lames tendres aujourd'hui.
Oui, et qui remet la rondelle à Gravel. Toi, Pinchot est déjà prête à sauter dans la mêlée. Oh, quel arrêt de Véro!
C'est fabuleux. Je peux pas croire que j'entende ça.
Pierre Houd les vendredis dans Gravel dans le retour. Avec Denis, Véro, Audrey et Pierre Houd.
102.1.
Salut la gang, c'est François Baudry, chroniqueur web de l'émission Gravel dans le retour. T'aimes mes chroniques? Tu veux en savoir plus sur le monde numérique? Rends-toi sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube.
Un crédit de 1 000 $ pour tes pneus d'hiver, la garantie prolongée sans frais, des taux d'intérêt à partir de 0% incluant le rabais fidélité et une équipe qui est là pour toi. C'est ce qui t'attend chez Québec Mitsubishi ou Sainte-Foy Mitsubishi à l'achat d'un Outlander PHEV, le VUS hybride branchable le plus vendu au Canada. C'est également la dernière chance d'obtenir les pleines subventions actuelles de 10 000 $ Québec Mitsubishi, 1000 boulevard Pierre-Bertrand et 5 fois Mitsubishi, 2830 rue Einstein.
Solde du vendredi fou, Matelas Dauphin. Tous les matelas Dauphin sont à moitié prix. Jusqu'à dimanche 17h, tous les matelas et sommiers fabriqués par Matelas Dauphin sont offerts à moitié prix, sans exception, dans tous les matelas Dauphin.
OK, alors on commence avec les meilleures offres locales au meilleur prix. Choisis et négociez pour vous par Mercado.fm.
Obtenez un chèque cadeau d'une valeur de 100 $ à 50 $ chez Bijoux Souvenirs Particella.
Adjugé, prochaine offre.
Obtenez un soin du visage complet d'une valeur de 119 $ à 60 $ chez Infinema Spa.
Adjugé à monsieur, madame qui écoute la radio dans son auto, au boulot, n'importe où. Divertissement, soins, hébergement, restaurant. Mercado.fm.
Cette année, les boutiques érotiques au 7e ciel célèbrent leur 15e anniversaire. En novembre, achetez un des 4 produits Womanizer et WeVibe sélectionnés et recevez 3 cadeaux totalisant 200 $. Au 7e ciel, 911 Charest-Ouest et Marché Jean Talon ou au 7e ciel.com.
Vendredi et samedi, ça va être fou chez Passe-Temps 3000. Des rabais fous partout en magasin. Jeux pour toute la famille, casse-tête, téléguidé, c'est le meilleur temps pour acheter vos cadeaux. Profitez des rabais fou vendredi et samedi chez Passe-Temps 3000, 445 rue Soumont. C'est ça, Passe-Temps 3000.
Oh yeah! Vous en pensez quoi?
C'était quelque chose.
Oh, tu sais vraiment comment épater la foule.
Besoin d'une pause après une autre mauvaise soirée karaoké? Chez Pléo Joe, nous savons trouver la juste note avec des succès comme Wolf Gold et une foule de machines à sous et des jeux de table passionnants chaque semaine. Ressentez cette sensation sur pleojoe.net dès aujourd'hui. Ouvert à tous les joueurs 18 ans et plus. Ceci n'est pas un site de paris en ligne. S'il vous plaît, jouez de manière responsable.
Sentir le plaisir, Pléo Joe.
Le vendredi fou est là chez l'usine. De 25 à 70 % de rabais sur plus d'une centaine d'items sélectionnés. Chaises, sofas, lits, de tout pour transformer ta pièce. Mais attention, les meilleures trouvailles s'envolent vite. Rendez-vous dans nos 5 boutiques ou sur l'usine.design.
Chez IGA, on vous aide à économiser chaque semaine. Comme sur le bœuf haché mi-maigre au format familial à 3,97 la livre. Si vous n'avez pas reçu votre circulaire IGA par la poste, découvrez nos offres sur l'appli ou à IGA.net. Jusqu'au mercredi 27 novembre, détails dans les magasins participants.
L'application Boulevard. Dans une poche près de chez vous. Poche de jeans. Poche de shorts. Pis même ta poche d'hockey. Appelez, textez, votez, réécoutez. L'app Boulevard 102.1. C'est plus que du rock.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir.
Maître Bellemare est avec nous ce soir, comme à chaque lundi. Monsieur Bellemare qui est sur des pancartes sur le bord des autoroutes, c'est rendu une star. Les gens l'applaudissent à chaque fois qu'il passe sur l'autoroute et qu'il voit Maître Bellemare. Faites attention, mettez vos deux mains sur le volant, faut pas faire d'accident, surtout que Maître Bellemare s'occupera peut-être de vous si vous faites un accident.
Ouais, c'est ça, le moins possible. Hein. Mais c'est vrai, les gens me parlent de ça, il y a des affiches sur le bord des autoroutes,
moi, ouais, ouais.
Tous les deux sur ces affiches. Alors, une chance que tu es là pour améliorer l'image un peu, ça rajoute.
Ça fait un peu bizarre au début, mais je vous dirais que le pire, c'est quand on est sur la route, là, quand on roule à côté des autobus du RTC avec notre face, puis là, il y a des gens qui sont à l'intérieur de l'autobus qui nous regardent. Ça, c'est un petit moment malaisant un petit peu, là, surtout quand on est en train de se fouiller dans le nez. Il faut faire attention, Maître Bellemare.
Ah, OK, c'est ça. On va faire attention. Mais en tout cas, je pense que les gens apprécient l'émission qu'on fait ensemble tous les lundis soirs, et ça depuis des années. On essaie de toucher l'actualité judiciaire, l'actualité politique, un peu de tout, mais d'être intéressant, puis surtout de coller à l'actualité. Hein. On parle de choses récentes et on donne des opinions. Et j'aime bien ça parce que t'es un fin connaisseur. Et tu suis l'actualité, et puis moi, ça me permet d'émettre un certain nombre d'opinions qui peuvent de temps en temps être controversées, mais ça, c'est la vie. Faut pas avoir peur de ce qu'on pense.
Voilà. Maître Bellemare, il y avait une chronique opinion dans le Journal de Montréal. C'est Mario Dumont qui signe cette chronique d'opinion-là. Puis il parle de l'administration fédérale. Il se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Selon lui, il y a de ça quelques années, la fonction publique fédérale s'était citée comme un exemple d'efficacité et de rigueur. Puis aujourd'hui, ben, on en rit un peu. Est-ce que vous avez connu cette époque-là où la fonction publique fédérale était citée là, un peu partout en disant « Wow, bel exemple de rigueur ».
Oui, ils ont eu des époques un petit peu plus positives avec des ministres, John Crosby dans le temps de Mulroney, John Turner dans le temps de Trudeau père. Il y avait aussi Wilson qui était ministre aussi conservateur. Des ministres des Finances qui avaient de l'étoffe, hein, qui étaient assez solides, et surtout du côté des conservateurs. On faisait attention aux dépenses, on y allait, on était stiff, là, puis on faisait bien attention pour ne pas augmenter trop la fonction publique fédérale, parce que le fédéral, au niveau des services à la population, c'est assez limité. Hein? T'as l'immigration, t'as les passeports, t'as l'armée, mais l'armée s'intéresse surtout les militaires. C'est rare qu'on voit de l'armée dans nos rues. Le chômage. Mais tu sais, les vocations fédérales sont moins près des préoccupations populaires, souvent, que les vocations provinciales qui, elles, touchent la santé, l'éducation et le transport essentiellement. Fait que les écoles, les hôpitaux, les routes, ça nous touche. Hein? C'est le quotidien, c'est le béaba de la vie. Alors que le fédéral, mais si t'es pas en chômage, si t'as pas besoin de passeport, si t'es pas un immigrant, mais t'as moins à faire avec eux autres. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il y avait une meilleure rigueur budgétaire dont parle Mario Dumont dans sa chronique récente, effectivement. Puis là, là, c'est avec Trudeau, là, mais c'est carrément la débandade. Il a augmenté la fonction publique d'à peu près 100 000 fonctionnaires, ce qui est quand même immense. Et les services ont perdu beaucoup de leur qualité. Et je veux parler notamment de la crise des passeports. Tu te souviens, il y a un an ou deux, là, les gens qui faisaient la file pour avoir des passeports, qui n'étaient pas capables de voyager. On a vu ça avec les PCU aussi, où il y a eu beaucoup de fraude. On a l'impression que le gouvernement Trudeau est vraiment le prix citron de l'administration publique fédérale. Et là, il est là depuis 9 ans. Fait que je comprends pas comment tu peux augmenter la fonction publique de façon aussi importante, puis donner aussi peu de services de qualité à la population. C'est là qu'on est.
Ouais. Lui, il propose quelques solutions. Là. Bon, il mentionne que la fonction publique canadienne, je dis des solutions, c'est plus des remarques. Là. Il dit la fonction publique canadienne n'est pas détachée du reste du pays. Et comme le Canada vit une crise généralisée en matière de productivité, ben c'est normal que ça se répercute dans la fonction publique. Il mentionne que la fonction publique fédérale donnait jadis des promotions selon la compétence. Et il dit « On a pris un risque énorme en remplaçant ce critère-là par une obligation de représentativité. Les promotions doivent aujourd'hui passer par une grille imposant l'obsession diversitaire. On nous jure que ces quotas respectés pour favoriser diverses minorités ne sont pas au détriment de la compétence. Lorsque la compétence passe deuxième, ça finit effectivement par paraître. 3. L'utilisation de la technologie semble à plusieurs endroits désastreuse. En fait, la fonction publique s'embourbe à perdre de l'efficacité en utilisant des améliorations technologiques coûteuses censées faire gagner du temps. L'exemple ultime, c'est vraiment le système de paix Phoenix. On dépense une fortune pour tout automatiser et finalement, on n'est même pas capable de sortir la paye des employés. Et 4, en matière de perte de rigueur, l'exemple vient de haut. Le leadership du gouvernement Trudeau éloignerait toute organisation de la rigueur. Prenons exemple du ministère embourbé et dysfonctionnel de l'immigration. Peut-on blâmer les fonctionnaires pour l'incapacité à traiter des dossiers? Le gouvernement a perdu le contrôle des frontières. Il a foiré à faire respecter des lois du pays. Il a même prêté le flanc à toutes les tricheries. Donc, c'était l'opinion de Mario Dumont dans le cas de la fonction publique fédérale. Vous me dites qu'effectivement, c'est à peu près ça que vous pensez aussi. Là. C'est que fut un temps où ça allait bien. Là, quand on regarde l'immigration, c'est vrai que c'est une catastrophe. On l'a échappé, puis on l'a échappé pas pire. Pensons au chemin Roxham. Le chèque d'aide sociale arrivait très rapidement pour les gens qui traversaient les États-Unis vers le Canada de façon illégale. Et si ces gens-là voulaient travailler, ça pouvait aller jusqu'à 14, 15, 16 mois plus tard pour avoir un permis de travail au Canada, alors que le contraire aurait dû être fait. C'est-à-dire, on vous octroie un permis de travail. Voici peut-être un petit chèque pour vous loger, puis vous habiller, puis manger les premiers jours, mais au moins, vous allez pouvoir travailler. Et en dernier recours, prendre l'argent des Canadiens pour faire vivre ces gens-là. On a fait ça de travers, Maître Bellemare.
Oui, c'est ça. Puis on a beaucoup, beaucoup d'immigrants. On n'est pas capable de gérer leur situation. Les réfugiés, là, quand François Legault est allé à Paris il y a quelques mois, il s'est fait dire que ça fait en France, pourtant qu'il n'est pas un modèle d'efficacité bureaucratique, loin de là. Ça a l'air qu'en France, les délais, c'est 3 à 6 mois avant de régler un problème de réfugiés. Il faut dire qu'eux autres, ça rentre à pleine porte aussi. Là. Eux autres, ils connaissent ça depuis longtemps parce que c'est un empire. Hein, la France, c'est un pays impérial, contrairement au Canada. Alors, eux autres, ils ont des obligations morales par rapport à tout le Maghreb, la Guyane, partout dans le monde où il y a des colonies françaises, en Afrique aussi, en Afrique du Sud aussi, en Afrique de l'Ouest. Alors, ils ont des problèmes d'immigration qui sont connus, mais ils ont une espèce de red tape, une espèce de fast track qui permet de régler les dossiers de réfugiés rapidement. Alors que nous autres, au Canada, ça peut prendre 2 à 3 ans. Alors, ça a comme pas de bon sens. Puis plus tu rentres de monde, plus c'est difficile de traiter les cas. Mais ils sont 100 000 fonctionnaires de plus dans la fonction publique parce que c'est un peu ça que Mario Dumont nous disait dans sa chronique. Il y a eu un dossier extrêmement étoffé samedi dernier dans le Journal de Montréal, le Journal du Québec, sur la fonction publique fédérale. Et d'ailleurs, c'est ce dossier-là que Mario Dumont commande. Et on a 100 000 fonctionnaires de plus, mais ils font quoi? Puis ils sont où? Et comment ça se fait qu'on a autant de délais pour le traitement des dossiers d'immigration actuellement? Je comprends qu'il y a beaucoup de monde, là, qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas contents du nombre de personnes qui rentrent au Canada, mais il faut les traiter, les dossiers, à un moment donné. Il faut être capable de dire oui ou non, vous pouvez rester ici. Puis si vous ne pouvez pas rester ici, il faut avoir une procédure pour leur montrer le chemin de sortie. Là, c'est ça l'affaire.
Dans un autre dossier, un dossier qu'on peut consulter, Maître Bellemare, sur Droit Inc., l'auteur de l'article, c'est Mylène Lafrenière. Elle parle d'une décision, qui dit « L'évêque et municipalité régionale du comité des collines de l'Outaouais ». On parle d'un travailleur, un inspecteur au sein du service de police de la municipalité régionale de comté des collines de l'Outaouais, ça commence à être compliqué, qui a déposé une réclamation auprès de la commission des normes de l'équité, de la santé, de la sécurité au travail. Lui, il alléguait subir du harcèlement psychologique au travail depuis quelques années. On parle quand même d'une police, là, et prétend que cette situation lui a occasionné une dépression majeure et une résurgence de stress post-traumatique. Et là, lui, ça a été refusé, ça, sa demande.
Oui, il a été refusé, mais finalement, il est accepté. Alors, c'est une décision qu'il a contestée, parce que la CNSST, c'est la commission des accidents de travail, là, s'occupe des victimes d'accidents, mais il y a aussi des maladies professionnelles qui peuvent être acceptées pour les gens, par exemple, qui posent des gestes répétitifs ou qui sont victimes d'intoxication, mais il y a aussi des maladies professionnelles de type psychologique qui peuvent être acceptées. Ça, c'est des cas de harcèlement, par exemple. C'est des cas de burn-out ou des gens qui sont capables de faire la preuve qu'il y a eu dans leur travail des abus de l'employeur, que l'employeur a eu des comportements nocifs, que le milieu de travail n'était pas approprié, qu'il y avait du harcèlement, mais auquel l'employeur ne s'est pas attardé, ne s'est pas attaqué, parce que la loi oblige l'employeur à prendre des mesures pour mettre fin au harcèlement lorsqu'il est saisi d'une plainte de harcèlement. Ça ne veut pas dire que tout est du harcèlement, parce qu'il faut comprendre aussi qu'on vit dans une société où le harcèlement a le dos large. Il y a bien des gens qui vont dire « Ah ben moi, mon patron a changé, ils ont changé de contremaître au bureau, puis il n'est pas aussi fin que le premier, fait qu'il m'harcèle. Pourquoi il m'harcèle? Parce qu'il ne me dit pas bonjour tout le matin, il ne m'apporte pas mon café, puis il a refusé mes vacances. » Alors là, il faut faire attention. Le harcèlement, là, c'est quelque chose, OK, je dirais pas un côté sadique, mais quasiment. Il faut que l'employeur ou les collègues de travail se comportent de façon nettement exagérée. Il faut qu'il y ait des regards insistants, des propos insistants. Et moi, quand j'ai quelqu'un dans mon bureau qui me dit « Maître Bellemare, je vais avoir une indemnité parce que je ne peux pas travailler à cause que j'ai été harcelé », je pose toujours la même question. Donne-moi les trois choses les pires que tu as vécues, là, les trois mots qui ont été prononcés. Les trois, on t'a-tu poussé? On t'a-tu traité de grosse nanana? On t'a-tu, je sais pas moi, est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'on a ri de toi? Est-ce qu'on a utilisé des mots? Ça, moi, les trois principales situations. Et là, si on me répond, ben écoutez, mon patron, il ne m'invite plus aux réunions. Mon patron, là, il a changé de boss, puis là, c'est un jeune, puis il me parle fort, puis il me parle rough, mais tu sais. Quand tu es rendu dans les mots, puis il me parle de même, puis il me parle de même, puis il me regarde avec des gros yeux, là, je vais te dire devant un tribunal, là, attache ta tuque pour prouver ça. Parce que c'est trop facile de dire, ben non, moi j'ai bien parlé, puis j'ai été poli, j'ai été courtois. Là, il essaie de te faire passer comme travailleur, comme quelqu'un qui a la mèche courte, puis qui prend tout au pied de la lettre. T'sais. C'est toujours le pattern que les employeurs et la CSST vont suivre pour essayer de faire en sorte que le travail ne soit pas jugé harcelant. Mais dans le cas dont tu parles, c'est une décision qui a été rendue la semaine dernière par le tribunal administratif du travail où le travailleur a réussi à faire la preuve qu'effectivement, il y avait eu des comportements déplacés de la part de l'employeur et en répétition pendant plusieurs années. Et c'est venu à bout du moral de la victime. Et ça a été considéré comme un accident de travail, ce qui fait que ces gens-là sont traités et indemnisés à 90 % du revenu net, comme tous les travailleurs accidentés qui ont des maux de dos et des maux d'épaule.
Après combien de temps on peut revenir en arrière? Parce que là, je regarde, c'est 2009-2010, là, les années où le travailleur considère que ça a commencé.
Oui, ça commence toujours en quelque part. D'habitude, ça commence lentement. Puis le harcèlement, c'est pas un événement précis, soudain, dans le temps. La plupart du temps, c'est des petits comportements, des petits propos déplacés. des regards insistants, des soupirs, c'est ça, c'est la répétition qui fait en sorte que la personne va finalement, éventuellement, exploser et se retrouver dans une situation dépressive avec un psychologue, etc., qui va noter tout ça et qui va poser un diagnostic de dépression, de stress post-traumatique ou de troubles anxieux en relation avec le travail. Alors, ça peut prendre du temps, ça peut se dérouler sur un certain nombre d'années, mais évidemment, il ne faut pas trop tarder parce qu'il y a des délais aussi pour réclamer. Et la plupart du temps, c'est un délai de 6 mois pour pouvoir réclamer à la CNSST pour une lésion professionnelle. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut adresser une réclamation le lendemain matin du premier propos désobligeant, mais la plupart du temps, on va commencer à calculer le délai à partir du diagnostic. Quand le médecin diagnostique « Madame Chose, vous êtes victime d'un trouble anxieux relié à des conditions de travail abusives », normalement, c'est là que ça commence. Puis quand le médecin prononce un diagnostic qui incrimine le travail et le harcèlement, là, il ne faut pas niaiser. Tu as généralement un délai de 6 mois qui s'applique à partir de la date où le médecin a pris position. Et souvent, quand le médecin prend position, ça veut dire que ça fait pas mal de temps que tu te fais harceler, puis même en termes d'années souvent.
Dans l'article, on parle de la théorie du crâne fragile. On dit que c'est un principe de la vulnérabilité de la victime. C'est une règle en droit de la responsabilité délictuelle de common law qui énonce qu'une personne doit indemniser une victime même si le préjudice est anormalement grave.
Le crâne fragile, ça, c'est l'aggravation d'une condition personnelle. Ça veut dire que tu peux avoir une certaine fragilité émotive. Tu peux avoir une certaine sensibilité. Tu sais, on n'est pas toutes pareilles. Il y en a des toughs, il y en a qui sont moins toughs. Et l'important, c'est de faire la preuve qu'il y a un événement ou une série d'événements qui ont causé un trouble psychologique qui fait que vous ne pouvez plus travailler dans ce milieu-là particulièrement. Et la théorie du crâne fragile, c'est que même si tu as une certaine fragilité émotive personnelle, si tu peux prouver que l'événement a fait basculer ton émotivité et a causé la blessure, c'est suffisant. C'est pas nécessaire que le harcèlement soit la seule, unique et entière, si tu veux, cause de ta maladie. Il suffit de prouver que le travail a eu une influence puis que c'est ça qui t'a fait basculer.
Okay.
D'un travailleur fonctionnel à un travailleur dépressif.
Franchement intéressant. Maître Bellemare, je vais vous souhaiter de passer un excellent lundi soir.
Oui, c'est gentil. Merci à toi aussi. Une très belle semaine. Puis il paraît qu'il va tomber quelques flocons. Fait que préparez vos pelles.
Exact. Oui, oui.
On va s'amuser.
Les pneus d'hiver, là, c'est dans quelques jours. Là. Il reste quoi? On est le 25 aujourd'hui.
Ouais.
Fait que là, c'est dépêchez-vous. 1er décembre, ça prend des pneus d'hiver, les amis. Sinon, vous pouvez avoir une amende salée de la Sûreté du Québec ou encore des services municipaux.
Tout à fait.
Maître Bellemare, merci.
Salut, bonne semaine.
Bye-bye. Pour rejoindre Maître Bellemare pour des dossiers de SAC, d'IVAC, de CNSST, c'est bellemareavocat.ca. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. On se reparle demain 10h avec Audrey Pinchot pour ce qui est d'Open Mic. Salut tout le monde. Bonne soirée. Ciao.
Marceau, le soir.
Acheter un panier d'épicerie virtuel au profit de la campagne Un Noël sans fin du Petro-Rocamadour, c'est faire notre part ensemble pour diminuer l'insécurité alimentaire de milliers de familles et de personnes seules de Limoilou. Boulevard 102-1 vous invite à donner généreusement en cette période de partage et d'amour. Le Petro a besoin de vous et de votre grande générosité pour apporter du réconfort toute l'année aux gens qui font face à ce défi au quotidien. Achetez un panier dès maintenant sur le site Internet du Petro.
Procurez-vous une Polestar 2 2024 parmi l'inventaire et profitez de remises gouvernementales pouvant aller jusqu'à 12 000 $ chez Polestar Ville de Québec.
À l'atelier du Père Noël, on se prépare pour le grand jour. Après une visite aux instruments de musique Long et McQuaid, les lutins se sentent inspirés. Impressionnant! Où as-tu déniché cette guitare?
Chez Long et McQuaid.
Mais bien sûr, c'est l'endroit idéal pour trouver des cadeaux qui combleront les adeptes de musique sur ma liste.
Pour les fêtes, visitez Long & McQuaid et découvrez notre immense sélection de produits à prix imbattable. Magasinez en succursale ou en ligne au long-mcquaid.com.
Vendredi et samedi, ça va être fou chez Passe-temps 3000. Des rabais fous partout en magasin. Jeux pour toute la famille, casse-tête, téléguidé, c'est le meilleur temps pour acheter vos cadeaux. Profitez des rabais foufous vendredi et samedi. Chez Passe-temps 3000, 445 rue Soumande, c'est ça, Passe-temps 3000.
Chez IGA, on vous aide à économiser chaque semaine. Comme sur le bœuf haché mi-maigre au format familial à 3,97 la livre. Si vous n'avez pas reçu votre circulaire IGA par la poste, découvrez nos offres sur l'appli ou à IGA.net. Jusqu'au mercredi 27 novembre, détails dans les magasins participants.
À la CCAP, on est plus qu'une compagnie de télécom. On connecte avec des humains. Et on a une opportunité d'emploi pour toi. On recherche deux techniciens en installation et services qui auront pour rôle de raccorder nos nouveaux clients, de faire des appels de services et de l'entretien préventif. Assurance et REER collectif. Cellulaire fourni, prime de garde et bonus de bienvenue de 1 000 $. Viens briller dans une coopérative en constante évolution. Ta chance de te joindre à la famille CCAP, c'est maintenant. Postule au carrière.fm.
C'est pas parce qu'on te parle pas que tu peux pas nous voir. Viens nous rejoindre sur Twitch, sur le BLVD barre en bas